France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Née en 1882, arrière-petite-nièce de l'empereur, princesse de Grèce et de Danemark, Marie Bonaparte s'intéressa à la psychanalyse au début des années 20. Analysée par Freud, devenue une amie de la famille et traductrice de ses travaux, Marie Bonaparte put légitimement se prévaloir du soutien du père de la psychanalyse en personne pour être de l'avant-garde de cette révolution des esprits qui n'en était alors qu'à ses prémices. Si tout le monde s'accorde pour dire que Marie Bonaparte n'apporta rien à la psychanalyse sur le plan théorique ou doctrinal, nul ne conteste le rôle capital qui fut le sien dans son histoire. Dans l'entre-deux-guerres, mettant sa fortune et ses relations au service de la cause psychanalytique, elle contribua à son implantation et son développement en France en étant l'un des membres fondateurs de la Société psychanalytique de Paris, en finançant la Revue française de psychanalyse et en prenant la direction du premier institut de psychanalyse. En 1987, dans un numéro de Profil perdu en deux parties, Cécile Amcy proposait une évocation de la très fascinante personnalité du Gotha que fut Marie Bonaparte. Extravagante et quelque peu étrange personnalité, mais libre de pensée et de parole, à laquelle jamais, jusqu'à sa mort en 1962, la curiosité intellectuelle et le courage de l'engagement ne firent défaut. Profil perdu, Marie Bonaparte, deuxième et dernière partie, avec Elisabeth Roudinesco, Serge Lebovici et Philippe Solers, une émission diffusée la première fois, le 29 octobre 1987, sur France Culture.
Le travail est aisé et la volupté est difficile, notait Marie, la dernière Bonaparte. Elle faisait aussi cette constatation en 1952, dans un de ses romans autobiographiques intitulé « Derrière les vitres closes », à propos de son enfance. J'aimais les assassins, ils me semblaient intéressants. Mon grand-père n'en avait-il pas aussi été un ? Quand il tua un journaliste, Victor Noir, et mon arrière-grand-oncle Napoléon, quel assassin monumental.
Elle a joué un rôle considérable sur le plan institutionnel. Marie Bonaparte, sans elle, le mouvement ne se serait pas consolidé dans l'entre-deux-guerres. C'est considérable. L'organisation du mouvement psychanalytique en France, le refus de collaborer avec les nazis, c'est Marie Bonaparte.
Profil perdu. Marie Bonaparte, 1882-1962. Une émission de Cécile Amcy. Deuxième partie. Avec Elisabeth Roudinesco.
C'est impossible de travailler sur Marie Bonaparte et de ne pas être fasciné par le personnage. On croit entrer dans l'univers des grands romans anglais du 19e siècle. C'est-à-dire, c'est les Hauts de Hurlevent, c'est certains personnages de Dumas, c'est un univers balzacien. On voudrait l'inventer, on ne pourrait pas.
Le professeur Serge Lebovici, ancien président de l'Association psychanalytique internationale.
À la fin de sa vie, elle a été voir ce condamné à mort qui avait vécu pendant plusieurs années aux États-Unis dans sa cellule. C'est ça, jusqu'à son exécution. Et ça, ça la dépeint assez bien, n'est-ce pas ? Jusqu'au bout de sa vie, elle va voir une éclipse à l'autre bout du monde, elle va voir ce condamné à mort, elle mène une vie très très active, très vivante. Sur la Côte d'Azur, elle avait une propriété à Saint-Tropez, elle s'intéressait aux méduses.
Thank you. et Philippe Solers.
Elle est présente dans la fondation de la psychanalyse en France avec l'état d'intrigue de couloir. Mais ce que j'ignorais complètement, c'était son franc-parler à propos d'elle-même, c'est-à-dire la façon dont elle raconte ses traumatismes enfantins, notamment la fameuse histoire soulevée par Freud d'ailleurs, à propos d'un crayon dit de bouche sur le fait qu'elle aurait assisté à l'âge de 3 mois à une fellation entre le piqueur de son grand-père ou de son père, oui c'est ça, le piqueur c'est bien, le piqueur, les chevaux, la chasse à courre, donc il était piqueur ce Pascal piqueur et sa nourrice. Et alors, il faut dire que c'est à mourir de rire en même temps qu'on est saisi d'une admiration grandiose. Admiration parce que si vous arrivez à m'amener une femme qui a autant de crudité dans ses propos à propos d'elle-même, autant de sérénité triviale dans la nomination des choses sexuelles, eh bien, je demande à voir. Donc, rien ne progresse dans cette dimension des choses, que les femmes sont par définition toujours plus ou moins inhibée quant à la parole sur ces petites affaires-là. Elle, semble-t-il, ce qui la distingue, c'est qu'elle peut parler de tout avec la plus extrême franchise.
C'est elle qui fonde l'Institut de psychanalyse, 34. C'est elle qui finance le mouvement, qui permet qu'on achète des locaux, qui finance la bibliothèque. Marie Bonaparte, c'est l'argent. Sans elle, il n'y avait pas de mouvement matériellement. Et elle dépense sans compter. En outre, elle a de grandes amitiés avec des professeurs de médecine. Elle fait exister la psychanalyse en France. Donc tout le monde la respecte dans le mouvement.
Elle avait ouvert ce qu'on appelait à l'époque l'Institut de psychanalyse, qui n'était pas un institut de formation pour psychanalystes, mais un organe de vulgarisation pour les médecins et pour les gens qui voulaient s'informer. Et
où on faisait quoi exactement ?
De conférences sur ce qu'était la psychanalyse. Il n'y avait pas d'enseignement proprement dit de la psychanalyse, comme ça existe dans ce qu'on appelle actuellement les instituts de psychanalyse dans le monde entier. Alors, Marie Bonaparte joua en effet le rôle d'intermédiaire entre le psychanalyste français et Freud, et à cet égard, elle a évincé quelque peu la forgue. Et ça, je crois qu'il faut le dire tout de suite, et donc on sait aussi, il faut le rappeler, que c'est elle qui a contribué à faire sortir Freud et sa famille de Vienne au moment de l'arrivée des nazis, de l'invasion nazie en Autriche. Elle a d'ailleurs dû donner une certaine somme pour faire sortir Freud. Elle l'a accueilli chez elle à Paris en lui proposant d'y rester. Freud devait partir en Angleterre. Il est donc resté seulement quelques heures chez elle. Mais ce ne fit que toute cette situation renforça beaucoup l'amitié de Marie Bonaparte et de la famille Freud. Elle était tout à fait intime avec Anna Freud, la fille de Freud. Et elles gardèrent des liens très réguliers entre elles jusqu'à la mort de Marie Bonaparte. Voilà, alors ça je crois que c'est un point important qu'il faut rappeler. Marie Bonaparte a été à un grand moment vice-présidente de l'Association internationale de psychanalyse, puis elle en est devenue vice-présidente d'honneur, c'est-à-dire vice-présidente à vie. Et elle était considérée toujours comme une de ses représentantes éminentes et infaillibles, enfin... Elle avait droit à une parole d'or. Hein.
Vice-présidente à vie après la guerre.
Oh, bien après la guerre. Mmh. Elle a d'abord été vice-présidente comme tout le monde, c'est-à-dire élue, puis après la guerre. Il y a un moment où elle n'a pas été élue, parce qu'il y avait des choses... Enfin bon, le scrutin est ce qu'il est. Et c'est moi qui ai eu l'idée de la faire désigner comme vice-présidente d'honneur, et elle m'en avait une certaine reconnaissance.
Marie Bonaparte en 1947.
Je dirais que les hommes apparaissent menés par des forces inconscientes, profondes, dominant et sculptant leur vie, leur destin et déterminant leur activité créatrice. Certes, comme Freud le soulignait dans la préface qu'il voulut bien écrire pour mon Edgar Poe, Les études analytiques ne prétendent nullement expliquer le génie des créateurs, qui semblent conditionnés par leur constitution et par l'apport des forces d'instinct qu'ils possèdent, et surtout par leur plus ou moins grande faculté de sublimation cérébrale, la qualité de leur cerveau. Mais l'analyse permet de montrer quels facteurs ont donné l'éveil à leur génie et quelle sorte de matière lui a été imposée par le destin. Et c'est une tâche particulièrement attirante que d'étudier les lois du psychisme humain sur des individualités hors ligne.
Pour comprendre ce que peut être Marie Bonaparte à l'époque, c'est un mélange de chef de mouvement et de personnage de Paris Match. Imaginez la princesse de Monaco s'intéressant à la psychanalyse, sérieusement, et étant en analyse avec Freud. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est pas courant.
Alors, son analyse avec Freud, comment est-ce qu'elle se passe ?
Alors, son analyse, c'est tout à fait extraordinaire parce que Freud va faire avec Marie Bonaparte une vraie analyse de quelque chose d'archaïque. Il ne va pas guérir Marie Bonaparte de sa frigidité. Et il ne va pas la sortir de sa passion chirurgicale. En particulier, je commence par dire que en 1927, alors qu'elle est en analyse avec Freud depuis déjà 2 ans, au cours d'un voyage à Vienne, elle fait son analyse par tranches successives en allant à Vienne, comme faisaient d'ailleurs tous les gens à l'époque, mais ça va durer 14 ans, ce qui est fou pour l'époque. Et en 27, fou, je veux dire que c'est une longueur extraordinaire pour l'époque.
En même temps, bon, elle avait des relations affectives très fortes.
Tout à fait. Elle est à la fois son amie, sa représentante. Elle le comble de cadeaux. Enfin,
elle a besoin d'aller le voir.
Ah, mais c'est son père, c'est son homme, c'est son idole. Et lui, il est absolument comblé. C'est un vieillard malade. Il ne faut pas oublier. On va en parler tout à l'heure. Donc, en 27, alors qu'elle est depuis 2 ans en analyse avec Freud, au cours d'un séjour à Vienne, elle subit une nouvelle opération du clitoris. Parce que elle s'aperçoit que son clitoris est encore sensible après la première opération. Voilà. Alors ça, c'est pendant son analyse. De sorte qu'on est obligé de constater que Freud, naturellement, n'est pas favorable à toutes ces opérations. Donc il se passe, dans l'analyse, quelque chose de tout à fait extraordinaire. C'est que, il ne faut pas oublier que Freud, à ce moment-là, est atteint lui-même d'un cancer de la mâchoire, qui se fait opérer des dizaines de fois, lui-même. Il est donc pris, lui, dans une passion chirurgicale, imposée par son cancer. C'est pas dit, ça n'est pas dit dans l'analyse, mais on peut pas ne pas y penser. Ce que cet homme subit dans son corps, et le fait que Marie Bonaparte intervient énormément, c'est elle qui fait rencontrer Max Schur à Freud, qui va donc s'occuper de Freud. C'est elle qui lui fait, qui trouve le meilleur prothésiste pour lui poser sa prothèse, sa mâchoire artificielle. C'est elle qui s'occupe médicalement du corps de Freud. Et donc, très difficile dans une relation comme ça pour Freud, comment peut-il dégager Marie de sa passion chirurgicale alors qu'il est lui-même pris dans une chirurgie, dans ce savoir chirurgical qui lui permet d'ailleurs de vivre. Peut-être qu'elle aurait rencontré Freud plus tôt, elle serait sortie de sa passion chirurgicale, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a bien ce moment-là est terrible.
Il y a une véritable folie dans le personnage de Marie Bonaparte et une quête aussi, mais une quête de l'impossible. Alors c'est ça qu'elle va chercher en allant voir Freud à Vienne ?
Tout à fait. Il y a une folie incontestable. On peut dire que Marie Bonaparte a une espèce est atteinte d'une espèce d'extraordinaire perversion. perversion de la théorie psychanalytique, puisque au fond elle ramène à l'organe ce qui en avait été détaché, perversion du regard privilégié par rapport à l'écoute, formidable exhibitionnisme et une sorte de fétichisme quant à son propre corps. Parce que quand même, toutes ces opérations sont démentes. Je pense que aujourd'hui, par exemple, Marie Bonaparte passerait son temps à s'occuper de cas de transsexualisme. Je sais que une chose étonnante, c'est que quand elle en a eu fini avec les opérations clitoris et vagin, elle est allée en Égypte pour s'intéresser à l'excision. Et là, elle a rencontré encore un grand professeur de chirurgie en Égypte, et elle a observé des dizaines de femmes excisées, leur posant des questions absolument extravagantes sur les conditions de leur jouissance, pour savoir si elles avaient des orgasmes ou pas d'orgasmes, etc. Elle a fait aussi de la dissection de cadavres, elle était fascinée par la mort. Dès son enfance, elle s'est intéressée à la dissection des cadavres, et elle avait une passion pour ça. On peut dire que si Marie Bonaparte avait fait partie d'une tribu primitive, elle aurait été anthropophage. Ou en tout cas, il y a quelque chose d'extrêmement morbide dans son intérêt.
Mais cette folie dont on parlait, on la repère surtout dans son style.
Oui, dans son style absolument incroyable de biologisme, d'organicisme, de fascination pour les corps morts, d'exagération, d'exacerbation de la théorie freudienne. Elle va toujours chercher ce qu'il y a de plus anatomique, de typologisation de la théorie freudienne. On le voit très bien dans sa conception de la sexualité féminine, la façon dont elle traduit la conceptualité freudienne de la sexualité féminine. La façon dont elle va commenter l'article de 1931 de Freud sur la sexualité féminine. Article dans lequel, au fond, Freud montre de façon très théorique que trois attitudes peuvent être dégagées dans la sexualité féminine par rapport de la reconnaissance par la fille du manque de pénis. Freud en dégage, après un très long raisonnement, trois attitudes dont il juge que deux peuvent être pathologiques. Alors Marie Bonaparte, elle va transformer cette théorie de la sexualité d'une façon absolument insensée. Insensée parce que elle va en faire une typologie. Bon. Freud, au fond, pose une réflexion très compliquée du point de vue de l'inconscient de ce qu'est la sexualité féminine. De ça, Marie Bonaparte va dégager trois types. Trois types qu'on peut ramener à ses problèmes à elle, à Marie Bonaparte. Elle va parler, au lieu de trois attitudes, elle va parler de trois types de femmes, les renonciatrices, les revendicatrices et les acceptatrices. Ce qui est déjà dans la terminologie tout à fait insensé, puisque Freud n'a jamais fait des types de comportements. Et en plus, elle va normaliser tout ça, montrant que la normalité féminine, c'est-à-dire ce qu'elle n'atteindra elle jamais dans sa tête, c'est l'acceptatrice. Bon. Sur le plan théorique et doctrinal, l'apport de Marie Bonaparte est nul. C'est une typologisation des thèses freudiennes. D'autre part, il y a une contribution réelle à la psychobiographie, qui est son livre sur Edgar Poe, cautionné et préfacé par Freud, qui est une psychobiographie classique de Edgar Poe, où elle s'est attachée vraiment à analyser très bien la vie et l'œuvre de Edgar Poe, en des termes un peu vieillis aujourd'hui, puisqu'on fait plus de psychobiographie, mais qui ne manque pas d'intérêt. Mais pourquoi s'est-elle intéressée plus particulièrement à Edgar Poe ? À cause de la fascination d'Edgar Poe pour les femmes mortes. Et toute la thématique de l'analyse de Marie Bonaparte sur Edgar Poe porte autour de cet univers de morbidité.
N'est-ce pas ? Ce qui est très frappant dans l'œuvre de Poe, ce qui m'a attiré vers la recherche des contextes de son enfance, ce sont les personnages féminins. Ces personnages toujours à la fois éthérés et macabres qui hantent son œuvre, tels que Morella, Ligeia, Lady Madeleine dans La chute de la maison Hoche, ou bien Bérénice. Dans ses contes, le poétique héros est d'abord présenté comme l'époux, le frère ou le cousin, le fiancé d'une femme extraordinaire, dans un lieu lointain, hors l'espace et le temps. Et alors l'héroïne se met tout d'un coup à dépérir d'un mal singulier, qui ressemble d'ailleurs fort à la tuberculose, à la phtisie. Cela me donne à l'idée de rechercher s'il n'y avait pas eu dans l'enfance de Poe une femme semblable. Car je ne le savais pas alors, je ne connaissais pas du tout la biographie de Poe. Et je découvris en effet que c'était sa propre mère. Sa propre mère qu'il perdit quand il avait trois ans à peine. Ça semble extraordinaire évidemment aux profanes qu'une mère perdue à 3 ans puisse laisser de tels souvenirs dans l'inconscient, mais il faut distinguer entre mémoire consciente et mémoire inconsciente.
C'est parce qu'on ne connaît pas le mot de Freud qui est si beau. À partir du 9e mois, la sexualité de l'enfant commence à diminuer.
Oui, alors il y a ce que j'ignorais tout à fait, c'est je connaissais un petit peu les élucubrations de Marie Bonaparte à propos de Poe, etc. En somme, elle a été l'esthéticienne de Freud qui n'avait pas le temps, souvent comme un directeur de journal qui confie la rubrique culture à quelqu'un comme ça en dehors d'y regarder lui-même. Elle s'est occupée en gros de la littérature et des cas singuliers en littérature, ce qui a entraîné un certain nombre de malentendus, d'ailleurs irréversibles. La psychanalyse et l'art, la peinture et la littérature notamment.
Vous savez qu'elle a eu aussi un rôle politique, hein, puisqu'elle était dans une certaine mesure l'égérie d'Aristide Briand, avec lequel elle avait une relation très...
Amoureuse.
Oui, amoureuse, mais dans une certaine mesure, parce qu'il n'y a jamais eu de concrétisation de la relation amoureuse, autant qu'on puisse le dire. Et elle était d'ailleurs très... en difficulté avec sa propre vie sexuelle. Elle avait subi beaucoup d'interventions chirurgicales, croyant qu'elle s'améliorerait ainsi. Enfin, c'est une femme qui était donc une femme passionnelle, passionnée, préoccupée de sa réussite physique et pas du tout insérée dans le monde où elle vivait, en particulier avec son mari qui était donc de la famille royale grecque et dont elle savait qu'il avait lui-même une vie un peu compliquée, qui n'était pas certainement seulement orientée vers les femmes et qu'il avait au moins des tendances homosexuelles. Donc ça, c'est l'arrière-fond de tout ça, qui est très intéressant en tant qu'il révèle la personnalité de Marie Bonaparte, mais qui ne touche pas, enfin, son rôle dans la psychanalyse. Alors, en tant que psychanalyste, membre fondateur de la Société psychanalytique de Paris, elle a eu, avant la guerre, un rôle important dans cette société. Après la guerre, peut-être, on n'en peut pas dire autant. Peut-être que la contribution qui reste la plus importante de Marie Bonaparte, c'est au fond son journal de petite fille et de jeune femme. Elle a tenu un journal, il s'appelle Derrière les vitres closes, je crois, qui est le journal psychanalytique d'une petite fille. Il y a un autre livre qui s'appelle comme ça, mais peut-être le cahier de Marie Bonaparte représente plus ça. Montre comment, dans sa vie quotidienne, dans ses relations avec son père, avec sa grand-mère, avec sa nourrice qui avait une vie compliquée, tous ces conflits s'inscrivaient. Ça, c'est une œuvre autobiographique, psychanalytique intéressante. Le reste...
Mais elle a aussi écrit sur le cas de Madame Lefebvre.
Oui, enfin, c'est un article qui a été publié dans la revue de psychanalyse sur une meurtrière, comme vous savez, je crois qu'elle a tué sa belle-mère, si je me trompe.
Non, elle avait tué sa belle-fille.
Sa belle-fille, oui. Alors... c'est une œuvre pathographique, n'est-ce pas ? Ce sont des choses assez superficielles, mais ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'y est intéressée.
Elle avait en effet commis un crime d'une horreur antique. Tuée pour l'amour d'un fils comme d'autres pour l'amour d'un amant. Une senteur d'inceste flottait autour du drame. On chuchotait même dans le peuple qu'elle aurait eu avec son fils des rapports charnels. Elle était de plus, depuis le crime... ce que la foule ne pardonne pas, d'une étrange impassibilité. Le remords ne la brisait, ne la courbait pas. Elle n'avait pas eu un mot de pitié pour sa victime. Elle était vieille. La grâce de la jeunesse ne plaidait pas pour elle. Elle était avare. Le bruit des gros sous entassés et des dépenses mesquines, contraste, reproché à sa bru, révoltait. Elle était riche. Et des rumeurs de corruption possible de la justice circulaient. On allait peut-être la faire passer pour folle, la soustrayant ainsi au juste châtiment.
Visiblement, Marie Bonaparte est fascinée par l'inceste. Mère-fils, vous savez qu'elle avait mis en analyse son propre fils chez Rudolf Löwenstein, lequel Rudolf Löwenstein était son amant. Ce qui évidemment n'était pas une pratique très, très orthodoxe de la psychanalyse. Rudolf Löwenstein d'ailleurs s'en est pas mal sorti de cette affaire. Et elle était absolument fascinée par l'inceste. Et elle écrit un jour à Freud en lui demandant qu'est-ce qui empêche, quelle est la nature du tabou de l'inceste, qu'est-ce qui empêche, après tout, pourquoi n'a-t-on pas le droit, pourquoi une mère ne peut pas coucher avec son fils. Et Freud va lui répondre une très belle lettre où il montre au fond que le problème du tabou, ça n'est pas un interdit moral, mais que ça sert à structurer un ordre social et à structurer un ordre individuel, parce que si l'inceste était autorisé, au fond, ça produirait de la folie. Et c'est à la fois une interprétation et un très grand moment théorique. Je la lis. Voilà la réponse donc que Freud fait parvenir à Marie Bonaparte en 1932. Il ne peut évidemment s'agir de l'habituelle raison du simple tabou. Il est assez étrange, mais peut-être aisément compréhensible, que les interdictions les plus puissantes de l'humanité soient les plus difficiles à justifier. La situation pour l'inceste est exactement pareille à celle du cannibalisme. Il y a naturellement de bonnes raisons pour que dans la vie moderne on ne tue pas un homme pour le dévorer, mais aucune raison, quelle qu'elle soit, pour ne pas manger de la chair humaine au lieu de viande. Pourtant, la plupart d'entre nous trouveraient cela tout à fait impossible. L'inceste n'est pas aussi éloigné et ne se produit en fait que trop souvent. Nous pouvons facilement nous rendre compte que s'il était pratiqué sur une large échelle, il serait socialement aussi nuisible aujourd'hui qu'il l'était dans les temps passés. C'est ce mal social qui constitue le noyau de ce qui, paré d'un tabou, est devenu une telle affaire. Dans des cas individuels exceptionnels, l'inceste, même aujourd'hui, serait inoffensif, bien que toujours antisocial, comme le serait l'abrogation d'une de ces restrictions sexuelles nécessaires au maintien de la civilisation. Pour un cas particulier, il faut aussi tenir compte de la considération suivante. Il pourrait se faire que quelqu'un qui aurait échappé à l'influence des refoulements phylogénétiques pratique l'inceste sans dommage, mais on ne réussirait pas à en être sûr. Ces héritages sont souvent plus puissants que nous avons tendance à le penser, et puis la transgression est suivie de sentiments de culpabilité contre lesquels on est tout à fait impuissant.
À bientôt.
Le docteur Voivonel, dans une conférence faite le 13 janvier 1927 à l'hôtel des Sociétés Savantes au Faubourg, rapporta plus nettement que dans sa contre-expertise, le crime de Madame Lefebvre au complexe d'Œdipe. Dans sa contre-expertise, il n'avait en effet eu qu'à mettre en valeur le fait de la folie résonante et non le dynamisme psychologique de Madame Lefebvre. Il était plus libre, dans une conférence, d'exposer la densité psychologique du drame. Le crime oedipien chez Madame Lefebvre, le crime oedipien retourné, non d'Oedipe, mais de Jocaste, est tellement évident qu'il faut toute l'horreur qu'inspire l'inceste pour que le nom de l'inceste naît, dans une enquête telle que celle du Figaro par exemple, auprès de médecins, juristes, psychologues, etc., pas même été prononcé.
Je crois que là, on a un texte de Marie de Bonaparte qui est un véritable chef-d'œuvre, qui est d'ailleurs très méconnu puisqu'il n'a jamais été réédité, qui est l'analyse du cas de Madame Lefebvre, 1927. La publication, c'est-à-dire que c'est publié dans le premier numéro de la revue française de psychanalyse. Or, ce texte, que Lacan a remarqué plus tard, et dont il a dit que c'était génial, est effectivement génial. parce que il s'inscrit dans un grand combat que mène la psychiatrie à l'époque et que reprendra Lacan avec les sœurs Papin et avec le cas Aimé, où Marie Bonaparte intervient à propos d'une femme criminelle. Il s'agit d'une certaine Marie quelque chose, Lefebvre, encore une Marie, qui a tué sa belle-fille, c'est-à-dire la femme de son fils,
alors qui était enceinte.
Alors que cette femme était enceinte. Mmh. Et Madame Lefebvre a été reconnue responsable de ces actes, c'est-à-dire que l'article 64 n'a pas joué en sa faveur, a été reconnue responsable de ces actes par des psychiatres imbéciles qui n'ont pas vu sa folie, et condamnée à mort. Comme à l'époque, on condamne plus, on n'exécute plus les femmes, Madame Lefebvre est donc dans sa prison à Lille. Sa peine a été commuée en prison à perpétuité. Et Marie Bonaparte va soulever des montagnes. C'est-à-dire qu'elle va aller voir Madame Lefebvre, enquêter de façon très précise, l'interroger avec cette maniaquerie extraordinaire qu'elle a, et produire en 50 pages un texte admirable, où elle démontre, au fond, que Madame Lefebvre est paranoïaque.
Le peuple avait un sens plus juste de la chose quand il chuchotait à Douai, à Lille ou à Paris, le secret terrible. Un amour charnel entre la mère et son fils. Il se trompait sur le fait. Rien de réel, de conscient, ne se passa entre cette mère et ce fils d'une famille bourgeoise où la plus stricte et étroite morale régnait. Mais le peuple avait là le pressentiment du drame déroulé dans l'inconscient de ses êtres et exprimait à sa façon crue et simpliste cette vérité que Madame Lefebvre, c'est Jocaste qui a tué. Le caractère oedipien de ce drame est d'ailleurs ce qui lui donna sa portée et sa répercussion immense dans l'esprit des hommes. Sans savoir pourquoi, tout le monde s'intéressait à l'affaire Lefebvre. C'est que dans toute mère, tout au fond de l'inconscient, il y a, bien qu'inexprimé, un peu de Jocaste et de Madame Lefebvre.
Donc Marie Bonaparte explique que le meurtre est la répétition d'un rite cérémonial pratiqué par Marie-Félicité Lefebvre dans son enfance, qui consistait à enterrer des poussins crevés. C'est-à-dire que cette femme enterrait donc des poussins, c'était une femme de la paysannerie. Ça rappelle ce que fera Lacan à propos des sœurs Papin, qui ont tué comme on égorge des lapins, les sœurs Papin. Ce jeu est la mise en acte d'un vœu de mort à l'encontre de sa mère, qui se trouve à l'époque enceinte de sa petite sœur. Devenue frigide et avare à l'âge adulte, elle collectionne son argent, hein. Madame Lefebvre entre dans le délire au moment où Antoinette, la femme de son fils, est fécondée, ne pouvant supporter le don de sperme que son fils fait à la jeune épouse. Alors, écrit Marie Bonaparte, dans l'inconscient de Madame Lefebvre a lieu quelque chose que nous ne saurons jamais et qui fait franchir à cette riche bourgeoise scrupuleuse et rangée la frontière au-delà de laquelle on devient criminel. Après l'acte, elle demeure dépressive et indifférente à l'entourage. Pour la princesse, il ne s'agit pas de la férocité calculatrice d'un être raisonnable, mais de la folie d'une femme persécutée qui se sent comme guérie de ses souillures par son crime. Madame Lefebvre, écrit Marie Bonaparte, appartient à cette catégorie de fous que le public refuse de considérer comme tels parce qu'ils ont pleinement conservé la lucidité, la mémoire et la raison. Des revendicateurs font souvent illusion et contredisent l'idée que le populaire a de la folie. C'est ce qui a permis aux experts leur affirmation de la pleine responsabilité.
Vous disiez qu'elle s'était intéressée à Carrie Chessman, criminel américain, et que toute sa vie,
elle a couru au bout du monde pour voir des choses, participer à des choses qui l'intéressaient et qu'elle considérait comme des événements humains riches, n'est-ce pas? Et ça, à la fin de sa vie, je disais aussi qu'elle était en train de s'intéresser aux Bédus qui envahissaient sa plage à Saint-Tropez, et qu'alors elle envoyait des méduses dans un institut de recherche pour discuter avec les chercheurs de la nature de ces méduses, de leur fonctionnement au point de vue physiologique. C'était une femme qui s'intéressait à tout. C'était une très grande curiosité intellectuelle. Et je crois que ça, cette vivacité d'esprit, cette capacité jusqu'à la fin de sa vie à s'intéresser aux choses, est une des grandes caractéristiques de sa personnalité.
De même, c'est elle qui a racheté la correspondance avec Flies.
Oui, c'est un épisode important.
C'est un épisode important parce que Freud, c'est la femme de Flies qui a vendu ça à un libraire. Marie Bonaparte la rachète. Et Freud s'oppose absolument à ce que cette correspondance soit publiée. Et Marie Bonaparte l'incite avec des termes très justes d'ailleurs. C'est très amusant parce qu'elle lui dit, mais vous-même avez dit qu'il ne fallait pas idolâtrer les grands hommes et les montrer sous tous leurs aspects. Et cette correspondance, au fond, parce que Freud disait que cette correspondance était intime et qu'il ne voulait pas que cette partie de son intimité soit dévoilée à la postérité. Et alors elle lui dit, mais il ne faut pas avoir le culte des grands hommes à ce point et tout peut être dit. Et finalement, elle fera publier cette correspondance, mais expurgée. Donc elle va être censeur. Elle ne va pas se gêner.
Je dirais, puisqu'on est sur ce sujet aussi, qu'elle était très aimée de son personnel. C'est assez intéressant. Elle avait un valet, c'est comme ça que ça s'appelle. Enfin, mais en tout cas, c'était plus qu'un valet. Factotum, enfin. Il s'appelait Edmond. Et Edmond l'adorait. Il l'appelait ma princesse et je me rappelle un jour où elle s'était cassé le fémur et il pleurait en évoquant la chute de sa princesse qui était tombée dans la salle de bain et disait « si ma princesse avait mis des chaussons, enfin, etc. etc. » Et au moment de son... le jour où on a célébré l'œuvre de Marie Bonaparte à la Société psychanalytique de Paris, il était dans un état émotionnel tout à fait impressionnant. Alors elle était aimée autour d'elle, elle était entourée d'un service abondant, mais qui était très plein de dévouement et d'affection pour elle. Mmh. Voilà, alors elle habitait avant la guerre à côté d'ici, place Iéna, il y a maintenant une banque dans un hôtel où maintenant se trouve une banque. Après elle a habité rue Adolphe Yvon, dans un hôtel qui a été démoli, elle se rétrécissait probablement pour des raisons financières. Et à la fin de sa vie, elle habitait dans la maison qu'habite maintenant sa fille, ou en partie sa fille, ça a été encore réduit, sa fille Eugénie, une maison qui se trouve à Saint-Cloud. Enfin, elle y recevait de façon quand même très fastueuse. La nourriture n'y était peut-être pas d'un grand goût, mais elle était tout à fait présentée d'une façon tout à fait fastueuse. On disait « Son Altesse Royale est servie » quand on passait à table, enfin tout ça était donc quand même... aussi rester quand même dans le domaine de ce que ça devait être. C'est se présenter comme ce qu'on appelle une grande dame. Alors, point de vue de son rôle dans la Société psychanalytique de Paris, bien, elle était non-médecin. Ça, je crois que c'est très important parce que à l'Association internationale de psychanalyse, la présence de non-médecins à égalité avec les médecins a toujours été reconnue. Mais il faut se rappeler quand même que la fille de Freud n'est devenue psychanalyste que parce qu'elle était psychanalyste d'enfant, c'est-à-dire que elle ne s'occupait pas d'adultes, enfin, quand elle était en Autriche, en tout cas, et que la présence de non-médecins a suscité longtemps des difficultés. Donc,
malgré la vie de Freud.
Oui, malgré la vie de Freud. Et en Amérique, la psychanalyse n'était pas ouverte aux non-médecins. C'est une des causes de tension qui a précédé, dans les périodes qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale, à l'intérieur de l'Association internationale de psychanalyse. Alors, Anna Freud, donc, était non-médecin, elle représentait le modèle des non-médecins, mais Marie Bonaparte aussi. Et en France, sa position, qui était respectée, mais peut-être pas considérée, tient aussi au fait qu'elle n'était pas médecin. Elle défendait donc les non-médecins, mais cette défense est assez particulière parce que elle était plus médecin que les médecins, dans une certaine mesure.
Donc elle va voir Freud à Londres, dans sa maison de Marisfield Gardens. Donc elle le verra jusqu'à la fin de sa vie.
Ah, elle, non seulement elle le voit jusqu'à la fin de sa vie, mais elle assiste, elle est là au moment de sa mort, et elle l'assiste jusqu'au bout, et elle assiste à l'incinération. Très importante pour Marie Bonaparte, le culte des morts, mais dans la réalisation matérielle, elle voit l'incinération. Et les cendres de Freud sont recueillies dans le fameux vase grec qu'elle lui avait offert, puisque Freud avait demandé que ses cendres soient recueillies dans ce vase.
Donc cette phagocytation post-mortem de Freud, ce Freud réduit en cendres, ce Freud brûlé non pas seulement en effigie ou ses livres par les nazis, mais ce Freud réellement brûlé, mis dans un petit vase grec, par une princesse, ça m'a toujours paru quand même assez intéressant, parce que qui mange qui avale qui, et jusqu'où ça va tout ça, ces avalements dans l'histoire, c'est ravalement, c'est intéressant. La mort de Freud, par définition, est intéressante, et ce qui arrive à son cœur aussi.
Je crois qu'il faut aussi diviser la vie de Marie Bonaparte en deux temps. L'une avant la mort de Freud, qui serait la partie bonapartiste de la vie de Freud, ce que j'ai appelé le pont d'Arcole, et qui reste de la vie de Marie. Et qui irait au fond jusqu'à l'Empire, hein, où Marie Bonaparte est encore. L'analogie s'arrêterait là. Mais où Marie Bonaparte, Freud étant vivant, est encore la représentante de Freud, et en même temps, où Freud sert quand même de garde-fou à quelque chose. C'est-à-dire, elle ne se prend pas pour Freud, elle est sa représentante. Et puis la deuxième partie, après-guerre, qui serait l'Empire napoléonien, si vous voulez, avec tout l'impérialisme de la princesse, qui va aboutir d'ailleurs à un véritable Waterloo, si on peut dire, et en même temps un triomphe, parce que... Où Marie devient de plus en plus, elle est devenue, si vous voulez, amie intime de la famille, de Anna Freud. Et à partir du moment où, au fond, toute la filiation et la descendance de Freud à travers l'internationale anglo-américaine va se scléroser en appareil bureaucratique, Marie Bonaparte va devenir la représentante de tout ce qu'il y a de plus bureaucratique, légiférant, sclérosé de la psychanalyse. Parce que, après 1945, notamment en France, le mouvement psychanalytique... C'est l'affaire de la nouvelle génération. Et la nouvelle génération, c'est-à-dire Lacan, Lagache, Nasht même, et leurs élèves, qui transforment le mouvement. Et où Marie Bonaparte fait figure, au fond, de pionnière d'avant-guerre, qui n'a plus de compétences, qui a très peu marqué cliniquement sa génération, qui n'a pas eu un grand apport théorique, et qui est un peu ruinée financièrement. Elle ne peut plus dépenser son argent pour le mouvement parce qu'elle n'en a plus. Et que d'autre part, le mouvement psychanalytique s'organise et va dépendre financièrement des cotisations des élèves, et où Marie Bonaparte est une reine un peu déchue. Bon. Symbole, les pionniers sont morts, sauf Laforgue et Nard, mais Marie Bonaparte fait un peu figure de vieux combattant qui emmerde tout le monde, en se réclamant de son analyse avec Freud, d'une légitimité que plus personne ne reconnaît, puisque elle n'a plus rien, vous parliez tout à l'heure de la vie, elle n'a plus rien de vivant. Elle est quelqu'un qui ennuie les jeunes générations par sa tyrannie, ses ordres, le souvenir de l'ancien temps, et qui est au fond un frein au développement de la société psychanalytique de Paris.
Les épisodes avec Lacan.
Une des caractéristiques de Marie Bonaparte après-guerre, c'est-à-dire le tyran qu'elle est devenue, c'est bien entendu de ne pas supporter les jeunes, et en particulier la jeune génération. Et bien entendu, celui qu'elle va d'emblée haïr, c'est Lacan. Elle va haïr Lacan pour de très nombreuses raisons. D'abord parce qu'il fait de l'ombre. Marie Bonaparte, qui n'est pas du tout idiote, s'aperçoit tout à fait que Lacan, c'est l'avenir, que c'est celui qui, au plan théorique, est incontestablement important. Tout le monde s'en rend compte d'ailleurs à l'époque. Et elle se rend compte que Lacan va la supplanter. Lacan est psychiatre, lui, s'est intéressé lui aussi aux femmes criminelles. Il a une formation classique. Il représente au fond tout ce que Marie n'a pas. Une extraordinaire liberté théorique et en même temps le poids du discours médical. Il est extravagant et sérieux. Elle va combattre d'emblée Lacan.
Quand il y a eu une scission à l'intérieur de la Société psychanalytique de Paris, elle s'est révélée très hostile à Lacan.
Et pourquoi ?
Parce qu'elle le considérait comme quelqu'un qui ne tenait pas ses engagements, qui était quelqu'un qu'elle ne pouvait pas, de ce point de vue, respecter.
Quels engagements ?
Enfin, là, on entre dans les questions qui ne concernent pas directement Marie Bonaparte. Les engagements de Lacan tenaient à la durée des séances qu'il donnait aux candidats de l'Institut de psychanalyse, n'est-ce pas ? Et engagements qu'il n'avait pas respectés. Et c'est une des causes pratiques du départ de Lacan. Alors la princesse Bonaparte ne l'a pas soutenue du tout, elle est restée avec la Société de Paris. Mais pourtant, elle avait, avant cette scission, joué un rôle certain dans une espèce d'agitation qui avait régné pendant les mois qui précédèrent ce départ, cette scission, qui est un peu différente du départ de Lacan. Et elle s'était plutôt solidarisée de ceux qui se plaignaient de l'espèce de dictature dont il pensait qu'elle régnait à l'intérieur de la Société de Paris et de l'Institut de psychanalyse au moment de sa fondation en 1951-1952. Alors, elle est donc restée fidèle à la Société de Paris, mais y a joué un rôle un peu fermentateur dans la période qui a précédé la scission. Et puis après, je ne sais pas en quelle année elle est morte, mais dans les dernières années de sa vie, donc à la fin des années 50, elle était restée très fidèle au noyau qui dirigeait la Société de Paris, son institut. C'est dans ces conditions donc que je l'ai eu beaucoup l'occasion de la voir. Mais par la suite, enfin tout à fait à la fin de sa vie, elle a de nouveau joué un rôle un petit peu comme ça, un peu révolutionnaire, en participant à l'élimination, c'est un mot qui ne convient pas, mais enfin à la création d'une nouvelle mutation. Le premier directeur de l'Institut de psychanalyse donnant l'impression un peu de s'incruster dans son poste et de devenir un peu dictatorial. De nouveau, elle a joué un rôle comme ça. Et ça, je crois que c'est une des caractéristiques d'elle, c'est-à-dire une espèce de, c'est un mot un peu facile à dire, enfin, une espèce de tendance révolutionnaire, disons, un sentiment de la nécessité de justice, de démocratie. Enfin, voilà des choses qui se reflète dans cette action, n'est-ce pas ?
La nouvelle génération est au pouvoir dès 1945. Avec Marie Bonaparte, personne respectée, mais d'un autre âge pour tout le monde. Et au passage quand même, il faut dire que Marie Bonaparte a eu une attitude extrêmement courageuse pendant l'occupation, puisque elle n'a en aucun cas céder à la moindre idée selon laquelle on pouvait sauver la psychanalyse pendant le nazisme. Elle a tout simplement arrêté toutes les publications en 40, fermé les portes de l'Institut, aidé tous les Juifs à émigrer, et émigré elle-même en Afrique du Sud pour toute la durée de la guerre. Donc, parfaite. Donc, sur ce plan, au retour, elle est prestigieuse. Prestigieuse, mais vide.
Vide ?
Oui. Elle n'est assise sur aucune tradition clinique. Elle n'a pas été une formatrice d'élèves. Donc elle n'a pas de poids clinique dans la Société psychanalytique de Paris.
Elle est une figure.
Elle est une figure. Elle a mal traduit, tout le monde le sait. Elle est un ancien combattant qui ennuie tout le monde. Et elle n'est pas Mélanie Klein. Elle n'a pas d'œuvre théorique qui puisse intéresser la jeune génération. Jeune génération qui se détourne de la France et de ses ancêtres pour s'intéresser à quoi ? À Mélanie Klein, au mouvement international, à ce qui se fait à l'étranger.
Donc en fait, elle met des bâtons dans les roues à tous ces gens-là, dont en particulier Jacques Lacan.
Automatiquement. parce que Lacan va s'affirmer en plus comme freudien. Et donc, au fond,
lui fait concurrence,
lui fait de l'ombre et affirme une légitimité qui va se passer en dehors d'elle. Bon. En outre, Lacan rassemble autour de lui un maximum d'élèves, ce qui n'est pas le cas de Marie. Dès qu'elle peut, elle essaye d'avoir le soutien de Loewenstein, qui est membre de l'Assemblée Générale, parce que, si vous voulez, pour bien comprendre, à partir de 1945, quel va être le rôle de Marie Bonaparte dans ce qu'on appelle l'international.
Elle a presque 70 ans, sinon passé.
En 1945, quel âge a-t-elle? Voyons, elle est née en 1982.
Oui.
Elle meurt en 1962, elle a 80 ans. Donc, effectivement, on peut dire qu'entre 65 et 80 ans, elle va avoir une activité tyrannique absolument extraordinaire. Là, c'est la Marie Bonaparte, intrigante, magouilleuse, bureaucrate, capable de toutes les perfidies que peut lui donner son pouvoir.
Tout en continuant à faire des romans ?
Oui, elle écrit, mais alors ça devient de plus en plus des souvenirs. Elle restera toute sa vie dans une espèce de fascination pour son enfance, mais aussi pour l'enfance du mouvement psychanalytique. C'est-à-dire, au fond, une petite fille tyrannique. C'est-à-dire l'analysante de Freud revenue à son stade d'enfance. Une tyrannique capricieuse. Et en même temps, grande dame. Mais il y a la petite fille. Il y a la petite fille à qui on casse ses jouets. Le mouvement psychanalytique lui échappe. On lui casse ses jouets. C'est plus à elle.
Quelle influence pensez-vous qu'elle ait eue auprès des jeunes de la Société psychanalytique de Paris à cette époque-là ?
Nul, totalement nul. N'a pas eu d'influence intellectuelle du tout. Quand elle venait, elle était respectée, il ne fallait pas fumer, parce qu'elle avait des palpitations quand il y avait du tabac. Elle a été donc 20 ans avant ou 30 ans avant de ceux qui empêchent les autres de fumer. Elle était respectée, elle s'asseyait aux places d'honneur, mais elle n'a eu aucune influence, aucune.
Elle avait un côté dragon.
Enfin, elle avait un côté sûr d'elle. Hein. Elle vivait dans un milieu, on est sûr de soi, il n'y a pas... On a des gens qui vous servent et elle était sûre d'elle, mais elle n'a pas eu d'influence du tout, au point de vue intellectuel après-guerre. Son influence s'est tout à fait arrêtée après la guerre, au moment où le mouvement psychanalytique a repris son essor dans des conditions tout à fait nouvelles et tout à fait régulières. Après la guerre, elle n'a pas eu d'influence en France. Elle a eu une influence plus au sein de l'Association internationale de psychanalyse du fait de son amitié avec la famille de Freud, la famille Freud et avec Anna Freud. Et elle était considérée comme ça, comme un personnage essentiel. Je me rappelle, il y a eu un congrès à Paris en 1957, je me trompe, un congrès international. Les langues officielles du congrès étaient le français et l'anglais. Alors elle est venue me voir et m'a dit il faut qu'il y ait aussi l'allemand, qu'on puisse parler allemand, parce que l'allemand était la langue de Freud. Alors ça se passait, enfin c'est quelque chose de tout à fait ridicule, qui ne pourrait pas se voir aujourd'hui, mais il a fallu que dans la journée, moi j'organise une interprétation allemande, parce qu'elle le voulait absolument, et il n'était pas question de dire non. C'était évidemment une chose qu'on ne pourrait pas voir maintenant, à ce moment-là, en 57. Les choses s'organisaient peut-être plus facilement. Mais c'était comme ça, enfin, elle était impérieuse et au sein de l'association internationale, la princesse, puisqu'on appelait la princesse, était considérée comme un personnage indispensable.
Et alors, elle est morte en 1962, ça a été, je ne sais pas comment ça a été commenté dans le milieu psychanalytique.
Français ou international ?
Français et international.
Français, c'était bon, une perte, mais ça n'a pas été ressenti comme une perte très douloureuse. Il y a eu une cérémonie en son honneur après, au cours d'un congrès. Mais non, pas plus au point de vue international. Il y a eu tout ce qui s'attachait à son nom, enfin une princesse d'abord, puis à tout ce qu'elle a fait pour la famille Freud. Alors, elle était plus importante au sein de l'association internationale de ce point de vue qu'en France. Ceci dit, elle est morte très courageusement. travailler jusqu'au bout, enfin, elle allait se baigner jusqu'au bout, enfin, bien, elle a été une femme formidable sur ce plan-là, c'est une personnalité riche.
Marie Bonaparte n'a pas seulement été que sur le front de la psychanalyse. Elle a aussi volé au secours de toutes les causes où la liberté était en jeu. En 1955, elle apprend que l'écrivain grec exilé à Antibes, Nikos Kazantzakis, auteur entre autres de Zorba le Grec, a été condamné par le Saint-Synode parce que non conforme à la doctrine orthodoxe. Marie Bonaparte lit Kazantzakis, écrit à la reine Élisabeth de Belgique et lui demande d'intervenir auprès d'Albert Schweitzer pour que celui-ci soutienne Kazantzakis. L'été de 1955, rapporte Célia Bertin dans la biographie qu'elle lui a consacrée, elle invite Kazantzakis et sa femme dans sa maison de Saint-Tropez, un psychiatre d'Athènes, et Monseigneur Parker, l'évêque sud-africain, qui se baigne avec sa croix et avec qui Marie discute en nageant de l'existence de Dieu. Profil perdu. Marie Bonaparte, une émission de Cécile Amcy, avec Elisabeth Roudinesco, le professeur Serge Lebovici, ancien président de l'Association psychanalytique internationale, et Philippe Solers.
Personne n'en parle, non, c'est vrai, c'est très dommage, et à mon avis, ça signe là aussi la dévotion dont s'entourent toutes ces choses analytiques et toutes ces affaires, parce que là, le refoulement est à l'œuvre, et alors Freud devient une image pieuse, et il faut bien bétonner tout autour, alors qu'on sent très bien que les risques que ces gens-là ont pris dans leur existence sont considérables, et la liberté d'accent, l'invraisemblable obscénité de leurs rapports verbaux. Je ne dis pas qu'ils se faisaient des choses. Enfin, l'incroyable facilité avec laquelle ils pouvaient parler de tout est une leçon de liberté.
Le cas de Madame Lefebvre, commenté par Marie Bonaparte, est paru dans le premier numéro de la Revue française de psychanalyse, était lu par Cathy Grandi. La biographie de Marie Bonaparte, La dernière Bonaparte par Célia Bertin, est publiée aux éditions Presse Pocket.
Ce que moi j'ai retenu, c'est la façon extraordinaire dont elle meurt. C'est-à-dire que naturellement, en toute lucidité, avec une fascination pour sa propre mort, puisqu'elle est atteinte d'une leucémie galopante, et qu'elle le sait, et qu'elle surveille elle-même le traitement totalement inutile qu'on lui fait, et elle en parle avec la même brutalité qu'elle parlerait de quelqu'un d'autre qui est en train de mourir.
Alors elle demande, sur sa tombe, elle dit « Pour moi, pas de versets de l'Évangile ou des psaumes, mais les beaux vers de le Comte de Lille. Et toi, divine mort, où tout rentre et s'efface, accueille tes enfants dans ton sein étoilé. Affranchis-nous du temps, du nombre et de l'espace, et rends-nous le repos que la vie a troublé. » Groupe de réalisation, Philippe Destrebecq, Marie-Dominique Bougaud, Jacques Taroni. Thank you.
Cette émission a été diffusée la première fois le 29 octobre 1987 sur France Culture. Vous pouvez la télécharger et la réécouter à la page des nuits sur le site franceculture.fr.